Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique Biaisée, épisode spécial. Les gens autour de la table, nos amis, ont décidé de vous parler des tops de ce début d'année. Voilà, puisque c'est l'été, vous êtes sur la plage peut-être, ou au bord d'une rivière. Peut-être avez-vous eu la chance d'avoir un petit cottage et de passer du bon temps en famille ou entre amis. Ben, vous écoutez Critique Biaisée et vous faites bien. Donc, le début de l'année dont va nous parler Pierre. Salut Pierre.
Oui, moi, oui,
c'est
tout à
toi.
Fait.
Bonjour.
Alors,
bonjour Pierre, bonjour Benjamin. Salut. C'est le bonjour.
Je m'attendais pas à avoir la patate chaude aussi vite.
Bonjour Pierre, bonjour.
Bonjour.
Toujours
oui,
pas. Bonjour Pierre, bonjour Benjamin.
Bonjour.
Bonjour Romain. C'était vu l'épisode de Nicolas Tête, c'est l'enfer. Salut Olivier.
Bah Pierre.
Je suis au téléphone.
Je te laisse
parce que normalement je peux pas te parler maintenant. Je suis en plein podcast.
Bonjour Olivier.
Pourquoi
ah, salut,
ça Olivier.
Bonjour. C'était maintenant, d'accord, j'ai cru parce que la patate chouette mais
toute l'équipe a besoin de vacances, je crois. Je crois que nous allons nous arrêter là pour le top. Nous avons le flop de l'épisode, c'est formidable. Donc toute l'équipe va vous parler de ses moments préférés de ces 6 derniers mois intenses de 2021. Et puisque je ne sais pas de quoi va parler Olivier, c'est lui qui va commencer. Du coup, Olivier, si tu as fini de raccrocher avec ta maman, que nous embrassons.
On embrasse.
Propose.
Alors, juste pour donner les news de ma maman, quand même, parce que je sais que tout le monde s'y intéresse. Elle a arrêté de fumer, voilà, pour il y a 2 semaines.
Bravo.
C'est quand même, bravo, maman.
Bravo, c'est beau.
Bravo, maman.
Je te soutiens.
Voilà. On t'aime, Maria.
Eh bien, jusqu'à. Il y a une heure, je crois, j'avais choisi de vous parler de mon top des 6 premiers mois qui allait être For All Mankind.
J'étais tellement sûr.
Quelle énorme ordure.
Je le connais tellement. C'est un scandale.
Et vraiment, j'en ai parlé, je crois, dans un des apéroco et super série, foncée. Il y a une des. Dans la saison 2 qui est sortie cette année, il y a une des
scènes
que j'ai vues.
Quel salaud.
Mais c'est pas dont je vais vous parler. Puisque je sais qu'autour de la table, il y a des gens qui ont envie de parler de cette série, donc je vais la laisser.
Ce sera Pierre.
Et à la place, je vais vous parler de Bo Burnham qui a sorti un truc qui s'appelle Inside. Alors c'est quoi? C'est clairement la grosse claque, non pas de mes 6 derniers mois, mais de cet après-midi, puisque je l'ai regardé juste avant de commencer l'enregistrement. Bo Burnham, c'est un comédien US qui est dans pas mal de comédies. Il est dans un film trop cool qui s'appelle Promising Young Woman et qui est actuellement au cinéma et dont on a parlé dans un apéroco. Et c'est aussi un stand-upper, etc., etc., multitalent, bref. Ce mec-là n'a pas eu le même confinement que nous. Donc, il a décidé de faire un spécial d'1h30 pour Netflix, tout seul chez lui, armé de sa caméra, son micro et quelques chansons, puisqu'il écrit des sons aussi qui sont assez stylés. Tout ça, il a travaillé tout seul dessus, il a tout fait. Ça lui a quasiment pris 1 an, et ça se sent, parce qu'en fait, c'est hyper intelligent, la mise en scène regorge d'idées, parce que tout est filmé dans la même pièce. Mais absolument tout. Les chansons sont hyper bien écrites, le travail sur le son est chambé, les images, et ça regorge de super bonnes idées. Donc c'est formidable. C'est sincère, c'est brut, c'est cynique, c'est mélancolique, c'est touchant et c'est vraiment super drôle. Du coup, c'est assez unique comme objet et franchement, je peux que le recommander. Ça m'a vraiment une grosse claque, quoi.
Ok, et sur Netflix du coup?
C'est sur Netflix, ça dure 1h30. Vraiment, tu vois un mec tout seul faire des vannes, faire des chansons avec des mises en scène qui regorgent d'idées. Et en fait, ça va parler à tout le monde parce que ça parle vraiment de ce qu'on a vécu pendant le confinement, mais ça parle aussi de l'état de la société. Enfin, voilà, c'est brillant, c'est intelligent. Regardez-le, c'est top.
Ok. Excellent.
Tu peux répéter le titre vite fait?
C'est Bo Burnham et ça s'appelle Inside puisqu'il a tout fait à l'intérieur de son appart.
D'accord, ok.
C'est un peu mieux que le jour de la marmotte, quoi. C'est ça que tu veux dire, parce que.
Ah, non, mais toi qui as eu un élan créatif pendant le confinement, tu regarderas ce qu'il a fait ce mec-là et tu te diras, ah ouais, quand même.
Du coup, c'est du même mec.
Vraiment,
du même
c'est
acabit, quoi. Enfin, c'est
non,
quasiment
non,
pareil.
Le gars,
quoi.
C'est un génie. C'est vraiment
pareil.
Ouf. Non, c'est vraiment ouf.
D'accord. Ok. Trop bien. Merci, Olive. Romain, toi qui n'as rien à dire, on va commencer par toi.
Si, je vais y aller. Du coup, c'est Army of the Dead. Non, pas du tout.
Non, en fait, c'est pas quelque chose qui est forcément sorti cette année, mais que j'ai regardé en janvier, parce que j'avais 5 ans de retard.
C'est accepté.
J'ai décidé de m'y mettre. Et c'était The Expanse, du coup, que j'ai maté, du coup, quasiment 3 semaines. Je me suis fait les 5 saisons à la suite. J'ai vraiment adoré. Je savais que j'aimerais, mais bon, j'ai jamais eu le temps, enfin, jamais eu le courage de me lancer. Et vraiment, ça a été exceptionnel. Très bon moment, de long en large, des petites faiblesses par moment, mais franchement, rien de rédhibitoire. C'est exceptionnel. Vraiment, ceux qui aiment la SF, il paraît que les livres sont encore mieux. D'ailleurs, Benjamin, tu les as lus,
je crois. Ouais, je confirme, ils sont super livres, vraiment.
Et vraiment, si vraiment vous aimez la SF et que vous êtes pas, vous n'avez pas encore regardé, c'est vraiment à faire. Hein. C'est dispo sur Prime Video, du coup.
La scène du vaisseau qui se retourne, Romain, t'as kiffé ou pas?
Je me rappelle plus quelle scène du vaisseau qui se retourne.
Quand le Rocinante se fait poursuivre et qu'il se retourne pour s'attaquer.
Ah oui,
c'est incroyable.
Il y en a qui ne l'ont pas vu.
Attention, spoil, mais pas de spoil. Peut-être tu peux juste nous en dire un tout petit peu plus sur c'est quoi l'histoire de départ, ouais, de.
C'est quoi l'histoire de départ? J'ai l'impression que je l'ai pas vu et que je me fous de votre gueule, en fait.
Il a pris un top, tu vois.
Attendez, au départ, c'est une équipe de 5. Ils doivent braquer un casino. et du coup.
Et il y a des zombies
ça
autour.
Ça marche pas, il y a des zombies à la fin.
Tu veux que je t'aide pour le
début? Et tout est fait en film d'animation. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est trop bien.
C'est un Lego. Benjamin complète.
Non,
c'est Benjamin.
Non, mais vraiment, Benjamin, je pense que c'est mieux, quoi.
Le début du lore, c'est juste, on a le héros principal, James Holden, qui fait partie d'un équipage, qui en fait récupère des matériaux sur des astéroïdes, notamment de la glace, et qui reçoit en fait un appel de détresse d'un vaisseau. Et il y a un grand débat en fait au sein de l'équipage pour savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas. Et en fait, James Holden, le héros, va décider en fait de mentir à l'équipage pour qui était contre y aller, à la vie générale, et en fait, ils vont y aller. Et malheureusement, pendant qu'ils y sont avec sa petite équipe, son vaisseau se fait attaquer et explose. Tout son équipage
et sa femme meurt.
Et ouais.
Et
sa
oui,
copine meurt, ouais.
Et, oui.
Et du coup, en fait, l'histoire part de là. En fait, il va partir en quête de vengeance pour retrouver les gens qui ont fait ça. Et il y aura plein de trucs qui vont venir se greffer sur ce scénario principal.
Et c'est très stylé. Et peut-être juste pour donner un tout petit peu sur l'univers, qui est assez cool aussi, ça se passe du coup dans le futur.
Ouais.
Donc c'est spatial. Et en fait, t'as donc la Terre qui maintenant est globalement unifiée. Et c'est l'ONU qui gère la Terre. Il y a une Mars qui est une planète qui a son propre gouvernement, etc. Donc c'est des gens partis de Terre pour les coloniser et terraformer Mars qui vivent là, et c'est un peu plus martial, très militaire, etc. Et puis t'as un troisième groupe d'humains qui sont les Belters, qui vivent sur les colonnes qui minent en gros, qui sont un peu la classe ouvrière oubliée de cet univers-là. Donc en fait, ça c'est un peu les trois forces politiques en présence. Donc tout ça pour illustrer qu'en fait il y a un univers tout derrière et une profondeur en lore qui est vachement cool et qui explique qu'il y a autant de saisons et des trucs vraiment très cool aussi en termes de géopolitique et pas juste de développement personnel, quoi.
Et c'est une complexité qu'ils arrivent à bien amener, quoi. C'est pas lourd, c'est super
c'est pas
bien
lourd,
ficelé.
C'est ça qui fout, ouais.
Et ils arrivent à alterner les moments super cool d'action, etc., de romance, d'intellectualité, du monde, etc. C'est super bien foutu, quoi.
Donc, ouais, c'est jamais vraiment pâteau, en fait. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça se regarde vraiment bien, quoi. Ça, c'est
mais série, ouais.
Effectivement, il y a 5 saisons, donc si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez plus, commencez dès maintenant. Benjamin, toi qui viens de décrire The Expanse, tu peux reparler de The Expanse si tu veux. Mais...
Alors, non, je vais pour ceux qui ont écouté du coup le dernier barbecue, j'avais un petit peu trichouillé parce que j'en ai parlé déjà dans ma reco de la semaine dernière. Il s'agit en fait pour moi du film Demon Slayer, donc en japonais Kimetsu no Yaiba, qui le train de l'infini, qui est sorti en salle du coup au Japon il y a quelques temps et qui est arrivé chez nous le mercredi de la semaine dernière, je crois, ou 2 semaines, quelque chose comme ça, bref. Et en fait, qui est donc le premier film que j'ai vu post-confinement. Et d'ailleurs, juste avant de parler du film, c'est un truc très marrant, c'est que depuis qu'il est sorti, je sais pas si c'est pareil au Japon, je crois que c'est uniquement en Europe. En fait, je sais pas pourquoi, pas me demander pourquoi, mais à chaque début de séance, quand le film débute, t'as plein de gens dans la salle qui vont gueuler
Jaeger.
Eren Jaeger et qui après vont gueuler Sheesh.
Alors ça a été popularisé par TikTok, c'est une tendance TikTok.
Ouais, ça j'avais vu ça, ouais, mais je sais pas pourquoi. Enfin, Eren Jaeger, donc c'est le héros de Shingeki no Kyojin Attack on Titan, extrêmement populaire, il y en a certains autour de cette assemblée qui ont commencé à regarder d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi il parle de, enfin il crie son nom. Alors ça n'a pas de lien avec l'animé, hein. Même pas le réel, enfin même pas le producteur ni rien. Je sais pas pourquoi, mais c'est assez marrant. Après il se taise, hein, je vous rassure. Mais sinon il y aurait eu quelques morts dans la salle. Mais ouais, je sais pas, ça m'a fait rire. Et donc du coup l'histoire, pour parler du film, prend place juste après les derniers événements en fait de la série animée, donc qui s'est terminée il y a un peu plus d'un an, je crois, et qui est une série incroyable. Et juste pour situer un peu le lore. On parle en fait des aventures de Tenjiro Kamado, qui vit avec sa famille, sa mère et ses nombreux frères et sœurs dans une montagne. Et lui, son job en fait, c'est de vendre du charbon dans le village environnant, qui est à quelques kilomètres de là. Et c'est un monde. Alors, je ne saurais plus situer l'ère exacte dans laquelle ça se situe. C'est une ère très courte au Japon, qui est dans la fin du 19e, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, au début, on croit que c'est un peu médiéval comme univers. Et on se rendra compte plus tard qu'en fait, bah, y a de l'électricité, il y a des trains, etc. Justement. Donc c'est assez marrant le moment où ça flippe. Mais bref, le scénar, c'est de dire, le mec part vendre son charbon, il revient chez lui, tout content. Et dans sa maison, toute sa famille est démembrée, est en sang, égorgée, ce que tu veux, détruite. Tous ses frères et sœurs morts, sa mère morte. Et en fait, il trouve juste sa sœur, une de ses sœurs, Nezuko, qui respire encore. Il va essayer de l'emmener jusqu'au village. Et pendant qu'il l'emmène, en fait, bah, elle va se transformer. Elle va prendre de la masse et elle va avoir des crocs qui lui poussent et elle va essayer de le buter. Et pendant qu'il résiste, un homme va arriver, va le sauver, va essayer de tuer sa sœur. Il va la sauver parce qu'il ne veut pas que sa sœur meure quand même. Et en gros, tout part de là, sa quête en fait pour rendre son humanité à sa sœur qui se fait changer en vampire du coup, en démon plutôt. C'est des démons, c'est bien plus que des vampires. Et voilà, ça part tout de là et là... Le film, du coup, reprend donc à la fin de la dernière saison où il va s'engager dans sa quête de puissance pour découvrir, pour commencer à poursuivre le grand méchant. Et voilà, donc pour parler du film en lui-même, c'est un film d'animation, donc comme j'ai dit la semaine dernière, incroyable de beauté. Vraiment, c'est l'animation à un niveau incroyable, on voit très 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 peu ça. Surtout que les plus grands ténors du genre, enfin les trucs les plus connus dans le grand public, ça a longtemps été du Dragon Ball, des choses comme ça, qui ont eu beaucoup de films justement qui ont été portés au cinéma, dont la qualité visuelle était quand même pas toujours ouf, on va pas se mentir, hein. C'était pas toujours incroyable. Et depuis qu'en fait il y a eu notamment, du coup comme on en parlait tout à l'heure, Shingeki no Kyojin, donc Attack on Titan, la qualité visuelle en fait, il y a une sorte de jalon de l'animation qui a été posé en disant voilà maintenant en fait ce qu'on va coller comme standard, voilà ce qu'on peut faire. Et
c'est plutôt avec les Fates, ça, du même studio, avec les Fates,
les Fates ont déjà posé, ouais, une belle pierre à l'édifice. Mais je trouve que Attack on Titan, ça a vraiment été le moment où tout le monde s'est dit ok, d'accord, on peut aller jusque là en fait. T'sais, en fait, c'était plus une question d'animation globale en fait. C'était déjà magnifique. En plus de ça, la musique était incroyablement travaillée avec la mise en scène aussi, le scénario, l'écriture, même si jamais c'est tiré du manga bien sûr, mais le respect, le je sais pas comment dire. Et ça a été, voilà.
Mais d'un point de vue de néophyte, Benjamin, c'est le premier que j'ai réussi à regarder autant de temps, alors pour SNK, et du coup à kiffer vraiment ce style d'animation. Avant, j'étais complètement hermétique en fait à ce style. Donc ça a débloqué pour moi en tout cas quelque chose de super cool, et avec la musique, et avec l'histoire, et avec les graphismes, quoi. Donc le trio de ces trucs-là.
Ouais, ça marche bien, quoi. Ça prend, tu vois, ça fonctionne. Et c'est ça qui est super bien, c'est que c'est quelque chose qui permet justement même aux gens qui sont pas du tout dans cet univers-là, pas du tout dans la culture Japon, la culture animée, en fait, de rentrer dedans en se disant « Ah ouais, on peut faire ça, tu vois, c'est pas juste du dessin animé, tu vois, ou c'est vraiment quelque chose de profond, et qui peut être très beau, etc. » Et pour Demon Slayer, du coup, juste pour finir, c'est un peu dans cette veine-là, c'est très beau, c'est prenant. Le seul bémol que vous aurez, c'est qu'il faut regarder la série avant, sinon vous perdez 80% de l'implication dans le film.
Super. Bah écoute, merci Benjamin, j'ai très envie de le regarder du coup. C'est le prochain sur la liste. Pierre, parle-nous, toi, de quoi vas-tu nous parler, Pierre ?
Ok, du coup, cette fois, c'est bien moi. Alors, moi, je vais tricher aussi pour deux raisons. Déjà parce que je vais ni traiter d'un film, ni d'une série, mais d'un livre, enfin d'une série de livres. Et la deuxième, un peu comme Romain, c'est pas un truc de cette année, et c'est là où je triche peut-être un peu trop, c'est que le premier roman de mon bouquin...
1782.
Et pas loin, 1984. Et le dernier que je suis en train de finir en l'an 2000. Alors, ça s'appelle The Black Company en anglais. Et c'est un livre qui va suivre l'histoire d'un groupe de mercenaires qui fait partie donc de la Compagnie Noire et qui est narré par son analyste qui est en charge, c'est un rôle qu'ils transmettent dans la compagnie depuis plus de 400 ans et qui est en charge de garder l'histoire de leur compagnie, de narrer ce qui leur arrive, les contrats qu'ils prennent, pourquoi, comment. Ils font partie de ce qu'ils appellent les compagnies libres de Katovar. C'est un truc qu'on ne sait pas trop avant assez longtemps. Donc ça va toucher du domaine de la fantasy, sans surprise. On est dans ce que je qualifierais de dark fantasy. C'est un truc qui devient de plus en plus utilisé, mais c'est pas un genre littéraire vraiment reconnu, j'imagine. Mais c'est grosso modo de la fantasy, mais avec des thèmes assez matures, assez adultes, assez sombres parfois, qui a pas forcément la volonté de raconter la lutte du bien contre le mal, mais plutôt de dépeindre le monde comme des nuances de gris, comme beaucoup d'autres médias. Mais là, c'est vraiment dans le domaine de la fantasy. Et ce livre-là le fait très bien, puisque étant donné qu'on suit des mercenaires, on suit pas vraiment une bande de héros en quête de justice et de défendre la veuve et l'orphelin, mais plutôt bien une bande de gaillards pas toujours très recommandables qui cherchent à fuir leur passé et se faire de l'argent. Alors ça veut pas dire qu'on suit non plus totalement des vilains, simplement plutôt des gens qui vont travailler pour eux dans un monde où c'est un peu difficile de déterminer qui a vraiment raison. Et l'auteur le fait très très bien, puisqu'il crée des personnages qui sont très gris aussi, souvent très froids, mais très amicaux à la fois, parfois complètement moralement répréhensibles, mais où tu arrives à t'attacher quand même. Et pour moi, c'est la grande force de cette série de livres. C'est vraiment centré sur ce personnage et la façon dont tu arrives à identifier des personnages où tu peux te dire dans la vraie vie, mais ce mec est une ordure, il est détestable. Mais tu arrives vraiment au fil des chapitres à les apprécier et finalement à vouloir qu'ils réussissent ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Et c'est un truc que j'ai trouvé très, très admirable. Moi, je les ai dévorés, les livres. Il y a quatre gros regroupements de tomes. Et j'ai bientôt fini et vraiment c'est une histoire absolument géniale et qui je pense d'ailleurs a sûrement dû influencer beaucoup d'auteurs dans ce domaine de dark fantasy, peut-être un peu plus récent.
Chambé. Voilà. Vivement qu'ils en fassent un film ou une série que...
Justement, ça fait un petit moment où il y a a priori des rumeurs comme quoi peut-être une série serait en travail dessus. Donc
énorme.
Avec Nicolas Cage dans le rôle principal.
Exactement.
Et George Clooney dans le rôle du méchant.
Et George Clooney.
Formidable. Ok, génial. Mais pour ma part, évidemment, hein, Olivier, merci pour la primeur. Hein, je te remercie platement.
Il n'y a pas de quoi.
On va donc parler pour la troisième fois, je crois, dans cette saison de Critique Biaisée de For All Mankind. Donc, si vous ne l'avez pas entendu, si vous n'avez jamais entendu parler de cette série, évidemment, ni sur Critique Biaisée, ni ailleurs, foncez tout simplement. Alors, c'est une série sur la conquête spatiale. Ça part du principe que ce ne sont pas les Américains qui sont allés sur la Lune en premier, ni dans leur studio, ni en vrai, mais bien l'URSS de l'époque qui a mis sur la Lune en premier un astronaute, et du coup ça change tout. Notamment, ça part du principe que la conquête spatiale va continuer, puisqu'on est vraiment sur des échelons, donc du coup les Américains vont surenchérir et veulent être du coup les premiers à poser, en tout cas dans la première saison, une base sur la Lune habitée. Et du coup, bah, comme vous pouvez l'imaginer, il y a un certain nombre de tensions, il y a un certain nombre d'éléments perturbateurs, entre les Russes et les Américains, mais pas que. Alors ça pourrait s'arrêter là et ça fait une série un petit peu bateau, mais en fait pas du tout. Ce qui est très rare, je trouve, dans les séries, c'est de réussir à aller un cran plus loin que son histoire et à la dépasser avec des performances quand justement on va rentrer dans les détails des psychologies des personnages et des interactions entre eux. Et For All Mankind réussit ce truc là c'est-à-dire ça part d'un principe qui est génial et qui peut parler à tous les gens qui adorent la conquête spatiale et ce type de dystopie. Mais là, ce qu'ils réussissent à faire de cette série, c'est un chef-d'œuvre. En fait, ils partent avec des acteurs qui ne sont pas forcément connus d'ailleurs, et ils arrivent à passer outre l'histoire qui est ultra, qui emballe extrêmement bien, et à réussir à créer des interactions, des personnages ultra profonds, des conversations, des scènes entre eux qui sont extrêmement folles et qui touchent à un point. Mais This Is Us, on sait que ça peut toucher parce que ça va aller sur l'émotion. Là, on s'y attend pas, et pim, on est pris au trip par des jeux formidables. Donc, c'est à la fois une super histoire, et en plus de ça, c'est extrêmement bien exécuté. C'est peu connu, donc si vous l'avez pas vu, prenez-vous un abonnement Apple Plus ou trouvez par d'autres moyens ce For All Mankind. Regardez-le. Voilà pour Marocco. Si vous ne l'avez pas vu autour de la table, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Benjamin, tu m'as donné envie, hein, je n'ai pas regardé, je suis en manque de série là.
Faut absolument le regarder. Envie de le regarder à chaque fois, mais à chaque fois, je le fais pas. Donc, je vais le faire.
Absolument
le
regarder.
C'est sûr que surtout qu'il y a pas si longtemps, je te rappelle qu'on a regardé quand même une de tes recos, c'était pas voilà, brillant.
Oui, c'est
je
vrai,
pense que la moindre des choses, c'est suis une de nos recos, tu verras.
C'est ça, j'aime bien garder l'avantage comme ça. Tu vois,
c'est sur quelle plateforme
Apple TV.
Ah. Ouais, Apple TV. Et je pense que c'est dommage d'ailleurs parce que ça dessert la série. Parce que Apple TV, en vrai, c'est fou, mais ils ont du contenu. Donc on parle de reco, mais ils ont du contenu qui est assez, vraiment quali.
Et ouf.
Et dont on entend peu parler parce que, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins que du Netflix et autres. Ouais, c'est beaucoup moins mainstream. Et pourtant, ils ont du super contenu. Que ce soit.
Le catalogue est pauvre, quoi. C'est pour ça aussi.
Oui, ouais. le catalogue est pauvre. Tout ce qu'ils ont, ouais. Honnêtement, c'est assez dingo. Tu prends ça, c'est tu prends Ted Lasso, tu prends Mythic Quest, etc.
Oui, c'est sûr. Mais regarde, c'est dur de prendre un abonnement pour 4 séries, quoi. Non, en vrai, c'est malheureux. Enfin, après, bon, si vous démerdez bien, personne paye Apple TV. Je crois que je ne connais personne qui paye cet abonnement.
Ils te le filent gratuit.
Ils te le donnent à l'infini, à peu près.
C'est un équipement Apple que tu viens d'acheter, il te l'offre, donc du coup, ou trouver quelqu'un
qui l'a... Ça fait un an et demi qu'ils le renouvellent. Non,
oui, c'est ça, ils n'arrêtent pas de le renouveler gratos, en fait.
C'est ils ça. Mais ils peuvent, ils ont 200 milliards en banque. Donc
oui, bien sûr, on va pas pleurer.
C'est sans doute un vecteur promotionnel avant tout, je suis pas sûr même qu'il rentre dans la... Enfin, je sais pas trop, je trouve que c'est un bon plus.
Je sais pas, mais ça marche même pas, parce que je crois que c'est que dalle en pourcentage de part de marché, donc...
C'est un petit bonus en plus, tu vois, acheter mon truc, vous avez en plus l'abonnement et tout, j'imagine que c'est
un petit argument. Ouais, c'est ça.
Mais t'as pas besoin de ça pour acheter du Apple, mais c'est toujours un petit plus sympa.
Oui, c'est ça. Non, mais voilà, c'est ça.
Les amis, si vous êtes au bord de la plage, nous vous souhaitons une excellente vacances. Pour nous, le rythme va être un petit peu différent. On l'a pas encore extrêmement défini. On est très bien organisé chez Critique Biaisée, mais voilà, on sait pas exactement comment la période estivale va se dérouler. On sait juste que, on vous prévient, le rythme
sera
peut-être un petit peu moins.
Voilà.
C'est ça,
on pourra... Le live jacuzzi ou le live au bord de la plage risque d'arriver. Donc, guettez Twitch.
Ça y est.
Voilà, c'est, on va enfin rentrer sur Twitch. Peut-être sur la saison prochaine, qui sait, de Critique Biaisée. Enfin, la saison prochaine, c'est après les vacances.
Toute la saison en jacuzzi, c'est une bonne idée. C'est sûr.
Pour nos chers auditeurs, je vous le déconseille. Ne nous regardez pas si nous lançons dedans. Je vous embrasse, passez d'excellentes vacances. Et puis, pour nous, on se retrouve bientôt. À ciao,
bientôt.
Les amis.
Voilà. Allez, bisous
à
tout
bientôt,
le monde.
Les loulous.
Et ciao.
Au revoir.